Le débat du jour, Jean-François Cadet.
Pie XII était-il le pape d'Hitler ? 50 ans après sa mort, Benoît XVI a célébré une messe en la mémoire de son lointain prédécesseur dont il entend réhabiliter la mémoire. Le Vatican continue d'ailleurs d'instruire le procès en béatification de ce pape dont l'attitude envers Hitler et le nazisme est controversée. Alors, mais qui est-il donc, cet Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, élu pape le 2 mars 1939 sous le nom de Pie XII ? Quelle fut son attitude à l'égard du nazisme et du génocide juif ? A-t-il laissé faire ? A-t-il péché par excès de prudence ? Ou mérite-t-il au contraire pour son courage et son activisme discret le titre de juste parmi les nations, comme le recommandent aujourd'hui plusieurs rabbins, comme David Deline par exemple. On en débat ce soir avec deux historiens, Yves Chiron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Église, et Annie Lacroix-Rize, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 7. En 2002, au moment du débat autour du film Amen de Costa Gavras, vous avez publié dans le journal Le Monde un article intitulé Pie XII, le pape d'Hitler. Alors, titre choc, ça veut dire que pour vous, Annie Lacroix-Rize, Pie XII était complice du Führer ?
Et en Allemagne, on menait à la venue au pouvoir d'Hitler, puisque... il était nonce en Allemagne depuis 1917, nonce à Munich d'abord, puis nonce dans le Reich à partir de 1920, et on peut considérer qu'il a été la personnalité essentielle qui a contribué, du point de vue du Vatican, à rétablir la formule de droite, d'alliance de droite sans exclusive, qui avait été perturbée par les conditions de la capitulation de l'Allemagne, c'est-à-dire par 1918.
C'est-à-dire que l'action du futur pape Pie XII en tant que nonce apostolique en Allemagne a participé de l'arrivée au pouvoir d'Hitler ?
Absolument, et il était considéré au tout début des années 20 comme la personnalité politique essentielle qui œuvrait sur le plan catholique à la poussée de l'extrême droite, puisque les archives militaires et les archives diplomatiques sont à cet égard très explicites.
Alors on va s'arrêter précisément sur son activité en tant que nonce, donc il n'est pas encore pape, on est bien d'accord. Est-ce que Yves Chiron, vous êtes d'accord avec Annie Lacroix-Rize lorsqu'elle dit finalement il l'a facilité et entretenu le pouvoir d'Hitler?
Bien sûr
en
que
Allemagne.
Non. Bien sûr que non, je ne peux pas être en accord. D'une part, celui qui le nonce à Berlin quitte l'Allemagne à la fin de 1929, et donc Hitler n'arrive au pouvoir qu'en 33, d'une part. D'autre part, et c'est d'actualité, n'oublions pas la crise considérable qui favorise l'arrivée au pouvoir d'Hitler au début des années 30. Et enfin, je crois que dès sa nonciature, au contraire, de manière claire, il y a des textes qui montrent que sur la question national-socialiste, sur la doctrine national-socialiste, le futur Pie XII est vraiment sans illusion.
Des critiques fortes, déjà à l'époque ?
Mais des critiques sur le fait que c'est une idéologie qui foncièrement est antichrétienne, bien sûr antisémite, mais aussi antichrétienne. Et les textes de Pacelli énoncent, et ensuite évidemment les textes de Pacelli, secrétaire d'État de Pie XI, dans les années 30, sont innombrables. On peut prendre un seul exemple bien connu, mais il faut le rappeler, c'est l'encyclique qui condamne le national-socialisme,
Mitbrennender-Sorge, voilà, 1937.
Il est admis, il est reconnu, il a été établi par l'étude des documents que Pacelli, secrétaire d'État de Pie XI, y a apporté une contribution essentielle.
Alors, le texte justement de cette encyclique, on va en citer un court extrait, Annie Lacroix-Rize, « Quiconque exalte la race ou le peuple ou l'État ou une forme particulière d'État ou les dépositaires du pouvoir » perturbe et pervertit un ordre du monde prévu et créé par Dieu. Il est loin de la vraie foi en Dieu et de la conception de la vie que la foi célèbre. Là, il y a clairement une prise de position, un écart en tout cas, par rapport au nazisme, non ?
Non, pas du tout. Cette encyclique qui a fait couler beaucoup d'encre et qui fait à peu près 40 pages, et que j'ai lu en latin, en français et en allemand, et qui figure dans les archives du Quai d'Orsay, entre autres, cette encyclique est une encyclique qui vise à contrebalancer la seule encyclique qui vaille et qui lui est antérieure en dépit d'une légende qui court dans ce qu'on pourrait appeler l'historiographie catholique ou ce que j'écoute coutume d'appeler historiographie cléricale. C'est une encyclique qui donc vise à contrebalancer celle qui lui est antérieure et qui s'appelle Divini Redemptoris, condamnant catégoriquement le communisme comme intrinsèquement pervers et qui est destinée à empêcher je dirais, toute alliance contre le Reich.
Mais alors, quand un pape publie une encyclique, c'est pas seulement pour faire joli, il y a quand même tout un message derrière, vous êtes d'accord?
Non, c'est une encyclique qui est une encyclique, je l'ai expliqué dans un ouvrage consacré à une histoire relativement longue du Vatican, qui porte sur la période allant de la Première Guerre mondiale à la guerre froide, pratiquement à la fin du pontificat de Pie XII. C'est une encyclique qui a une fonction de politique extérieure, et je le répète, qui pas une fois ne prononce le mot nazi, national-socialiste, et ne condamne à aucun moment, je suis formelle là-dessus, ni le nazisme, ni le pouvoir nazi.
Yves Firon. Bon, écoutez, évidemment, on n'est pas du tout d'accord sur la lecture de cette encyclique, qui a été un texte fort, qui était un texte en allemand, hein, rédigé en allemand.
C'est exact que le mot nazisme n'est pas cité.
Le mot nazisme n'est pas cité, mais tout le monde comprend. Quand on s'adresse à une encyclique adressée aux évêques allemands concernant la situation de l'Allemagne et concernant l'Église allemande, et qu'on parle, je cite, la divinisation de la race qui est condamnée, qui est dénoncée, évidemment, ça vise le national-socialisme. Et puis sur la question particulière des juifs et de l'antisémitisme, dans cette encyclique, et je pense que mon interlocutrice en sera d'accord, il y a un long passage sur le peuple juif, les beautés de l'Ancien Testament, l'enseignement de l'Ancien Testament que les catholiques ne doivent pas oublier. Donc, alors, bien sûr, on peut toujours dire c'est insuffisant, il aurait fallu faire la liste des lois antisémites déjà en vigueur, etc. Mais ça, ça fait l'objet de courriers, de correspondances, de dépêches qu'envoie la secrétaire d'État, c'est-à-dire Pacelli, au nonce à Berlin, demandant des interventions, des analyses, etc. sur le sujet.
Demandant aussi de ne pas persécuter les juifs.
Ben évidemment, de toute façon, la condamnation de l'antisémitisme, je pense que mon interlocutrice le sait aussi bien que moi. Au XXe siècle, il y a au moins deux textes antérieurs à Pacelli et antérieurs à Pie XI. C'est bien sûr 1916 avec Benoît XV. Vous êtes d'accord, madame, je pense?
Non, monsieur. Et en particulier, d'ailleurs, sur Mitbrenner Sorge, outre que dans les 40 pages, personne n'a réussi à trouver une défense explicite ou implicite des Juifs.
Ah,
comment vous expliquez qu'après cette encyclique, il y a eu en Allemagne un certain nombre de représailles contre le clergé catholique?
Écoutez, il n'y a pas eu... Alors, j'explique dans un chapitre consacré à l'Allemagne de l'ouvrage dont j'ai parlé, j'explique la fonction de Mitbrenner Sorge. Il s'agit d'un texte, mon interlocuteur l'a remarqué, qui est une encyclique à destination de l'épiscopat allemand et non pas une encyclique à vocation universelle, de sorte qu'elle n'a été diffusée dans aucun pays. Je suis formelle là-dessus et les archives diplomatiques
Non,
il faut me laisser parler, monsieur. Par opposition à l'encyclique Divini Redemptoris. Et c'est l'ambassadeur du Reich, c'est l'ambassadeur allemand auprès du Vatican, le protestant von Bergen, qui fait observer, qui raconte, c'est consigné dans les archives allemandes, pourquoi l'encyclique a été lancée. Elle a été lancée en particulier pour empêcher l'épiscopat des pays considérés comme les pays de l'ancienne alliance, les pays alliés, en particulier la France et l'Angleterre, de se lancer dans une offensive contre l'Allemagne et en particulier dans une offensive contre les missionnaires allemands qui assumait à ce moment-là une fonction éminente dans la préparation du retour de l'Allemagne à ses colonies.
Alors, Yves Firon, on a beaucoup parlé de ce que le futur pape a dit. Parlons maintenant de la façon dont il a réagi au moment de la guerre, en sachant évidemment que les persécutions contre les Juifs ont commencé avant. Hein, mais enfin, bon, au moment de la guerre, comment est-ce que le pape s'est positionné, selon vous, par rapport au régime hitlérien?
Les choses, à mon avis, sont claires pour les gens de bonne foi. Bon, on parle souvent, il y a eu des livres sur le sujet, des articles qui ont parlé du silence de Pie XII. Bon, il est évident que Pie XII n'a pas été silencieux. À deux reprises au moins, et je pense que mon interlocutrice serait d'accord, à deux reprises au moins, fin 42, début 43, il emploie le mot « extermination ». Et il parle des Juifs, il ne parle pas de je ne sais quelle population.
Mais il parle, mais est-ce qu'il condamne?
Mais bien sûr, et puis deuxièmement...
Le terme n'est pas utilisé.
Mais j'ai les textes.
Extinction de la race, mais... je suis formel, monsieur. Extinction de la race, et comme dit von Bergen lui-même d'ailleurs, ça n'a gêné personne, puisque ça fait deux lignes sur une encyclique de plusieurs pages, et que, comme le dit l'ambassadeur von Bergen lui-même, personne n'a compris
mais
la
madame,
vision.
Mais madame, ce n'est pas une encyclique, ce sont deux discours.
Monsieur...
deux discours qui ont été répercutés à l'étranger.
Il s'agit d'un discours qui a été prononcé sur la pression express des États-Unis dans des conditions qu'expose fort bien les archives publiées des États-Unis.
Est-ce que cette position du pape, encore une fois, si on va dans votre sens, hein, position, admettons qu'elle soit clairement exprimée, est-ce qu'elle n'est pas tout de même particulièrement timide au regard de l'ampleur du drame?
Bon, je vais me permettre de prendre un exemple qui vaut ce qu'il vaut. Le Darfour aujourd'hui.
Pourquoi ne pas prendre une position plus claire?
Ah ben, je vais aller clairement dans la chose. Alors,
non, mais moi, je parle du pape, pas de vous.
Ah bon? Non, mais le mot silence est évidemment sujet à controverse, comme je viens de le dire. Mais en plus, à mon avis, il faut opposer au supposé silence de Pie XII ses actes, c'est-à-dire ses interventions à travers les nonces, voire ses interventions directes, pour sauver des milliers, des dizaines de milliers même de juifs. Ça, si on le conteste, alors dans ce cas-là,
Disent d'ailleurs Annie Lacroix-Riz, un certain nombre de rabbins, alors, on parlait de David Deline à l'instant,
il y en a eu des dizaines,
un historien et théologien juif qui s'appelle Pinchas Lapide et qui parle de 700, peut-être même 860 000 juifs sauvés par l'instigation du pape. Ça, c'est pas rien quand même.
Écoutez, je sais bien que certains rabbins...
C'est une légende ?
Je sais bien que certains rabbins ont rendu hommage à Pie XII. Je vous signale d'ailleurs qu'un rabbin vient de rappeler que Pie XII n'avait protégé de fait aucun juif.
C'était lors d'un synode des évêques à Rome.
Je suis historienne et je m'appuie sur les pratiques établies par la correspondance diplomatique, militaire, etc. Et non pas, bien entendu, sur les félicitations ou les malédictions portées a posteriori. Et notre débat est très court, mais il lui fallu, pour permettre de comprendre les choses, évidemment, revenir sur le nonce, revenir sur le secrétaire d'État, revenir sur le pape. Mmh. Je citerai plus...
Est-ce que le pape a sauvé des juifs?
Non.
Oui ou non?
Qu'on aille chercher, dans les ouvrages scientifiques.
Mais vous regardez les actes et documents du Saint-Siège.
J'ai laissé mon interlocuteur parler. J'aimerais que mon interlocuteur me laisse parler. Il est établi par la pratique, et en particulier par la pratique des clercs. Un certain nombre de choses, je citerai un exemple. Dans l'ensemble de l'Europe, et on a des informations très précises, en particulier sur l'Europe orientale, l'Église romaine a laissé ses clercs participer non seulement au massacre des Juifs, je suis formel, le cas de la Croatie est absolument établi, mais à l'arianisation des biens juifs. Je ne suis pas la seule, je ne fais pas partie évidemment de l'histoire religieuse cléricale, mais je signale qu'un catholique qui s'appelle Carlo Falconi a montré dans les cas polonais et croates toute une série de choses confirmées par les archives diplomatiques et militaires.
Yves Chiron, la parole à la Défense pour terminer.
Je pense qu'on ne peut pas assimiler l'acte de tel ou tel prêtre, voire évêque, et puis l'action directe de Pie XII. Quand Pie XII écrit au régent de Hongrie, l'amiral Horthy, pour sauver des juifs, il y a une efficacité immédiate. On ne peut pas le nier. Quand Pie XII lui-même donne l'ordre à Rome de cacher des juifs en 43 dans les couvents, c'est pareil.
Ce qu'on connaît par les archives, c'est l'envoi de Mgr Oudal, qui est une créature de Pacelli, avant qu'il ne soit pape. Mgr Oudal, qui sera un des grands organisateurs du sauvetage et recyclage des criminels de guerre, c'est Mgr Oudal, le champion de l'Anschluss, qui est envoyé pour discuter avec l'occupant militaire allemand la déportation des juifs de Rome sous les fenêtres même du pape. Et il y a une autre remarque, c'est que, comme vous le savez fort bien, aucun évêque ne peut prendre une position hostile au Vatican sans être immédiatement frappé d'éviction. J'en connais des cas et j'en ai cité.
Yves Chiron, très vite, on arrive à la fin.
Bon, écoutez, moi, je vais simplement rappeler que des milliers de juifs ont été cachés dans les couvents de Rome entre 43 et 45, que des milliers de juifs ont été cachés dans le Vatican même, dans l'enceinte du Vatican, il y a Castel Gandolfo. Si c'est pas une action concrète de sauvetage et d'aide aux juifs, eh bien dans ce cas-là, on n'a pas besoin de débat davantage.
Merci beaucoup à tous les deux, Yves Chiron, Annie Lacroix-Ruiz, historien. Restez avec nous sur RFI dans un instant, un nouveau journal.